Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. En 70 ans, l'UNESCO n'aura jamais été dirigée par une personnalité venue du monde arabe. Cela changera peut-être cette année, puisque le poste de directeur général sera pourvu dans quelques jours. Parmi les 9 candidats, 4 viennent du Moyen-Orient et l'une fait figure de favorite, la franco-libanaise Vera El-Khoury l'accueille. Elle veut redéfinir les objectifs prioritaires de l'agence onusienne et élargir les sources de financement. Elle est notre invitée. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Vera El-Khoury l'accueil.
Bonjour Monsieur Bataille.
Vous êtes l'une des 9 candidats à la direction générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'un de ces candidats sera désigné par le Conseil exécutif lors d'un vote à bulletin secret pendant la 202e session du Conseil dans quelques jours, en octobre. Le Conseil qui aura lieu du 4 au 18. Mais c'est la Conférence générale qui aura le dernier mot lors de sa 39e session qui aura lieu, elle, en novembre. Alors, en 70 ans, le monde arabe n'a jamais dirigé l'UNESCO. Il a bien failli en 2009 lorsque l'Égyptien Farouk Hosni faisait figure de favori, mais ses propos antisémites répétés l'ont finalement disqualifié. Vous êtes 4 candidats issus de cette région, les 3 autres venant d'Irak, d'Égypte et du Qatar. Vera El-Khoury l'accueil, vous sentez-vous la candidate du monde arabe ?
Oui. Je crois que je me sens tout à fait la candidate du monde arabe. Je suis une Libanaise et le Liban est un pays du monde arabe, un pays qui peut avoir des ambitions sur la scène internationale et présenter des candidats de qualité. Il a cette ambition et je crois que c'est une candidature tout à fait légitime et très forte.
Car le Liban occupe une place particulière dans le Moyen-Orient, c'est aussi un pays polylinguiste, par exemple.
Oui, au Liban, tout le monde parle plusieurs langues. C'est une société très ouverte, c'est un pays très ouvert sur l'extérieur, un pays accueillant, multiculturel, multireligieux. C'est un pays qui peut servir de pont entre plusieurs régions, plusieurs cultures.
Alors le fait que parmi vos compétiteurs, il y ait 2 autres femmes et que l'une soit française, ancienne ministre de la Culture, et l'autre égyptienne, est-il de nature à desservir votre propre candidature ?
Écoutez, je suis ravie qu'il y ait des femmes et j'espère que le prochain directeur général sera une directrice générale. Bien sûr, on est dans une compétition et nous sommes là, chacun, en train d'essayer de faire campagne sur ses qualités. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis également française. Je le dis parce qu'il y a des articles qui paraissent dans les journaux le disant comme si c'était quelque chose que je cachais. Eh bien non, le curriculum vitae que j'ai déposé officiellement à l'UNESCO contient mes 2 nationalités. Maintenant, je trouve que le monde arabe, quand il présente des candidats de qualité avec des compétences qui peuvent l'amener à ce poste, à cette fonction de directeur général, je pense qu'il serait bon de laisser le tour au monde arabe.
Alors les auditions ont eu lieu cette fois 5 mois avant le vote, c'est une première, et en plus ils ont lieu en public, ce qui est aussi une autre première. Au cours de ces auditions, vous avez insisté sur la nécessité pour l'UNESCO de rechercher de nouveaux financements. À quel type de financement pensez-vous et comment comptez-vous vous y prendre ?
Oui, je pense que l'UNESCO vraiment doit s'ouvrir sur l'extérieur et travailler avec le secteur privé, avec la société civile, beaucoup plus qu'elle ne le fait jusqu'à présent. Et pour optimiser ce genre de relations, moi je crois qu'il faut travailler avec des professionnels. Moi je suis convaincue que chacun sa profession. La communication et la levée de fonds, il y a des compagnies, des sociétés qui le font, c'est leur profession. Et je crois qu'il faut travailler avec ce genre de professionnels pour trouver de nouveaux financements. Les pays payent des contributions obligatoires à l'UNESCO, mais on sent qu'on a atteint un plafond de verre parce que tous les pays ont des problèmes économiques et ont des difficultés à augmenter le budget de l'UNESCO tous les 2 ans. Donc il faut qu'on soit créatif et qu'on trouve des sources de financement différentes et innovantes et qu'on arrête de se plaindre du manque de financement, mais qu'on mette toute cette énergie plutôt à innover et trouver de nouvelles sources.
Des sources qui pourraient venir d'entreprises, par exemple, ou de fondations ?
Absolument, et puis de personnes. Moi, je suis vraiment pour ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire de demander à beaucoup de donner très peu, mais cela finit par faire des sommes conséquentes pour nous. Et nous avons plusieurs programmes à l'UNESCO qui ont un potentiel pour ce genre de financement, comme tout ce qui est financé, la réhabilitation d'un site du patrimoine, l'éducation des filles. Nous avons des programmes avec un grand potentiel pour ce qu'on appelle levée de fonds, mais par le public. Et bien sûr, des entreprises privées aussi.
Et sur des projets précis ?
Oui, sur des projets précis, on peut lancer des campagnes précises, des projets précis. Je pense qu'il y a un énorme potentiel de ce côté-là.
Alors, les tâches de l'UNESCO sont multiples, on le sait, c'est d'ailleurs dans son sigle. Parmi elles, l'organisation doit favoriser la liberté d'expression ou encore prévenir l'extrémisme violent. Comment doit-elle s'y prendre, selon vous ?
Pour la liberté d'expression, c'est un programme extrêmement important pour l'UNESCO. Et dans le cadre de ce programme, il y a aussi la protection et la sûreté des journalistes. L'UNESCO a un apport important dans ces programmes-là. Il y a tout ce qui est renforcer des capacités. Il y a tout ce qui est la formation, des curricula pour des cours qu'on peut intégrer totalement dans les cours de journalisme pour apprendre aux journalistes de se protéger, surtout dans des régions de crise. Et bien sûr, la liberté d'expression, tous les droits de l'homme sont supposés faire partie intégrante de tous les programmes de l'UNESCO. Ce sont nos objectifs pour tous nos programmes.
Alors justement, on parle de la liberté d'expression, la liberté d'être soi-même. Que pensez-vous de la mesure prise cette semaine par le roi Salman d'Arabie Saoudite d'autoriser, enfin, devrait-on dire, les femmes à conduire ?
Eh bien, je trouve que c'est une excellente nouvelle, je m'en réjouis et j'espère que ce n'est que le début d'une série de mesures pour que la femme arabe et saoudienne prenne toute sa place dans la société, soit complètement autonome et indépendante et libre de penser et de faire ce qu'elle veut.
L'Arabie Saoudite est l'un des contributeurs, évidemment, de l'UNESCO, mais qu'il ne respecte pas l'ensemble des éléments que l'UNESCO promeut au quotidien.
Écoutez, le rôle de l'UNESCO, justement, c'est de convaincre et de travailler avec tous ses États membres d'une façon continue et persistante pour convaincre, justement, d'avancer vers ce genre de réforme qui donne toute sa place à la femme et aux droits humains dans tous les domaines.
Donc c'est un bon début pour l'Arabie Saoudite.
Absolument.
Alors l'UNESCO doit également s'occuper du patrimoine mondial. Faut-il, selon vous, insister sur la protection des sites déjà référencés par l'organisation ou en protéger de nouveaux ? Comme on peut citer cette année, il y a eu les Alpes suisses qui sont protégées, il y a aussi la techno-zurichoise.
Vous savez, il y a un article qui n'est pas très connu dans la Convention du patrimoine mondial qui demande aux États partis à la Convention de protéger tout leur patrimoine et de ne pas délaisser tout ce qui n'est pas inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Et c'est quelque chose d'important, j'insiste sur cela, parce qu'il ne faut pas penser que tout ce qui n'est pas sur la liste du patrimoine mondial n'est pas important et ne doit pas être protégé. Donc, il faut tout protéger. Le patrimoine, c'est une richesse qu'on ne peut pas se permettre de perdre. C'est ce qu'on doit faire hériter à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc, moi, je suis pour la protection de tout le patrimoine. Bien sûr, avec une attention particulière pour le patrimoine qui est en danger.
Notamment dans cette région du Moyen-Orient dont vous êtes issu, la Libye, mais aussi l'Irak, la Syrie.
Et le Yémen.
Et le Yémen, où effectivement le patrimoine là est vraiment en danger. Que peut faire l'UNESCO pour y remédier ?
Vous savez que l'UNESCO distribue des cartes quand il y a des crises et des conflits, parce que l'UNESCO ne peut pas se mêler dans ce genre de conflits, c'est plus à New York, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité qu'on essaye de trouver des solutions. Mais nous, ce qu'on fait, on donne des cartes pour montrer où sont les sites du patrimoine mondial et leur demander d'éviter de les cibler ou de faire tout leur possible pour que ces sites ne soient pas une cible des combats. Parfois ça marche et parfois ça ne marche pas, mais l'UNESCO doit absolument rester en contact avec tous les partis pour les sensibiliser à l'importance de préserver ce patrimoine autant que possible. Et je dois dire là que je sais que pendant les campagnes pour Palmyre et pour les sites irakiens, il y a eu de grosses campagnes à l'UNESCO pour protéger ces sites. Moi, je pense que ce sont des campagnes extrêmement importantes et essayer de sauver ces sites est extrêmement important. Mais pour moi, la vie humaine passe avant.
N'y a-t-il pas finalement un trop plein de domaines dans lesquels l'UNESCO doit intervenir? Il y a aussi, je le cite, la protection des océans, les statistiques, le développement de la science, sans oublier le cœur de métier, l'éducation. N'y a-t-il pas trop de choses dont l'UNESCO doit s'occuper, selon vous?
Le mandat de l'UNESCO est très large, c'est vrai. L'UNESCO intervient dans plusieurs domaines, mais sous un angle précis. C'est-à-dire, on intervient dans ces domaines, mais on fait pas tout dans ces domaines. Il y a d'autres agences qui interviennent sur les mêmes domaines, mais en faisant autre chose. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des domaines où on fait un peu la même chose dans plusieurs agences des Nations Unies. Et ça, c'est quelque chose qui est un problème de tout le système. Et j'ai fait partie d'un panel, justement, à New York, à qui on a demandé de faire des recommandations pour réformer tout le système de développement des Nations Unies et essayer d'éviter ce chevauchement et cette concurrence même entre les agences, les fonds et les programmes des Nations Unies. Et maintenant, le secrétaire général des Nations Unies a pris certaines de nos recommandations et va déclencher une réforme. Si je suis élue à l'UNESCO, je vais recentrer le travail de l'UNESCO sur toutes ces niches où on a vraiment une valeur ajoutée et où on est capable d'avoir des résultats et avoir un impact sur le terrain qui justifie qu'on fasse ce travail. Et je vais convaincre les États membres de l'UNESCO que le reste, il faut le laisser tomber. Moi, je suis pour faire moins, mais mieux, plutôt que de faire beaucoup et pas bien.
Merci Vera El-Khoury Lacueil. Je rappelle que vous êtes actuellement conseillère au ministère de la Culture du Liban et aussi évidemment candidate à la direction générale de l'UNESCO.
Merci beaucoup.
Voilà est une intéressante collaboration entre la chanteuse égyptienne Mariam Saleh et le producteur libanais Zaid Hamdan qui signe la musique. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la phrase de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, les titres de la presse israélienne portent sur un nouvel attentat.
Intifada, nouveau style, nouvelle forme de terrorisme pour la presse israélienne. L'attentat qui a fait 3 morts aux abords de la colonie de peuplement de Haradar, près de Jérusalem, marque un tournant. Une attaque qui était impossible à prévoir, font remarquer les commentateurs. Son auteur était bien connu des habitants du village. Ils travaillaient depuis des années chez eux et avaient leur pleine confiance. La presse souligne également le fait que l'une des victimes de cet attentat était originaire de la localité voisine d'Abou Ghosh, un village arabe dont les dirigeants ont toujours entretenu des liens très amicaux avec les leaders israéliens. Et cela donne une dimension nouvelle au conflit, estiment plusieurs chroniqueurs. Maariv consacre un article à la vie à Haradar après l'attentat. Les habitants de la colonie se sentent trahis et ils se posent une question très terre-à-terre. D'où viendront désormais nos hommes et femmes de ménage?
Alors Alexandre, d'innombrables réactions et commentaires dans la presse arabe après le oui écrasant au référendum d'indépendance du Kurdistan.
Oui, et même si personne ne doutait de la victoire du oui, beaucoup d'analystes de la presse arabe ne prévoyaient pas un tel raz de marée. Alors 93% de oui laisse peu de place aux doutes quant aux aspirations des Kurdes. Cela n'empêche pas certains journaux d'évoquer la possibilité d'un report de l'indépendance du Kurdistan irakien. Selon Ashad Klausa, des discussions seraient en cours entre le président de la région kurde, Masoud Barzani, et le vice-président irakien Iyad Alaoui pour geler momentanément le processus d'indépendance. Certains éditorialistes n'hésitent pas à évoquer la théorie du complot, si populaire dans les médias arabes. Selon les appartenances et les points de vue, c'est soit l'Iran chiite qui est derrière le référendum, soit Israël et le sionisme. D'autres éditorialistes cherchent les causes de cette volonté d'indépendance dans les injustices et la ségrégation subies par les Kurdes. Il y a enfin ceux qui ajoutent que la cause est tout simplement ethnique et culturelle, comme cela est le cas pour la Catalogne et le Québec.
Et puis encore, dans la presse égyptienne, Alexandre, une polémique sunnite-chiite autour d'un mausolée.
Oui, il s'agit du mausolée de l'imam al-Hussein, fils de Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète Mahomet et dernier des califes bien guidés. Pour les chiites, il est considéré comme l'imam fondateur et son fils al-Hussein comme le troisième imam du chiisme. Le mausolée a été construit au XIIe siècle au Caire par les Fatimides chiites. La tête de l'imam al-Hussein, tué par les Omeyyades, est la précieuse relique du mausolée. Les journaux égyptiens se font l'écho de l'appel de salafistes à détruire le mausolée pour empêcher les chiites de le révérer. Il y a en Égypte 2 à 3 millions de chiites qui cassent généralement leur foi et ne disposent d'aucune mosquée où prier.
Michel, le 50e anniversaire de la politique controversée de la colonisation fait polémique.
Une grande fête pour célébrer 50 ans de colonisation, un jubilé organisé par le gouvernement israélien. Mais Eric, la presse israélienne s'est penchée sur les grands absents de ce rassemblement qui a eu lieu dans le secteur de Gush Etzion, un bloc de colonies situé au sud de Jérusalem. Alors tout d'abord, les responsables du parti travailliste n'étaient pas là et les commentateurs font remarquer que ce sont les dirigeants de ce parti qui, il y a précisément un demi-siècle, ont lancé le mouvement de la colonisation en Cisjordanie. Mais aussi parmi les personnalités qui ont été conviées à la cérémonie, la présidente de la Cour suprême israélienne a préféré décliner l'invitation, un refus qui a provoqué une véritable polémique et qui a été qualifié de véritable honte par la droite israélienne, et aussi Eric qui a fait couler beaucoup d'encre et donné lieu à des titres tels que « La honte a disparu »,« Le royaume de la Cour suprême ». La cérémonie a eu lieu mercredi soir, mais le débat, lui, se poursuit.
Et par ailleurs, Michel, c'est la fête juive du pardon ce week-end.
Les juifs en Israël et dans le monde entier marquent ce samedi le jeûne du Yom Kippour, le grand pardon. Alors à la une de la presse, le soldat franco-israélien Elor Azaria, condamné à une peine minime de 18 mois de prison pour avoir achevé au sol un assaillant palestinien neutralisé, il bénéficie d'une remise de peine de 4 mois accordée par le chef d'état-major à l'occasion de Yom Kippour. À retenir, Eric, l'éditorial de Haaretz, le journal libéral, qui estime que le concept de deux états pour deux peuples est moribond au moment de Kippour, qui est un temps propice aux examens de conscience. Il faut rappeler que ce qui ne sera pas obtenu très prochainement dans un processus politique risque d'être perdu à tout jamais, affirme l'éditorialiste.
Des femmes qui vont conduire en Arabie Saoudite, l'information est très largement commentée dans vos journaux, Alexandre.
Oui, et les journaux rapportent surtout la fatwa de l'organisme des grands oulémas d'Arabie Saoudite, des oulémas qui ont soudain découvert que conduire était un droit de la femme dans la charia. Alors ce sont les mêmes oulémas qui, il y a quelques semaines, affirmaient encore que la femme ne pouvait pas conduire car elle manque de cerveau, conformément à un hadith du prophète. Tous les commentateurs applaudissent la décision et certains se demandent si ce décret royal ne marque pas le début d'un changement plus profond dans l'Arabie wahhabite conservatrice.
Allez, pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Eh bien, ce sont des photos d'archives de la guerre du Kippour en octobre 1973. Il y a 44 ans, l'armée israélienne était attaquée par surprise, un des plus grands fiascos de l'histoire militaire israélienne.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans un instant, un nouveau journal d'information.